Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 mars 193, l'Empire romain est mis aux enchères. Au deuxième siècle de l'ère chrétienne, l'Empire romain s'étend sur près de 4 millions de kilomètres carrés, de l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique à l'Euphrate. Rome est au sommet de sa gloire. Pourtant, le 28 mars 193, l'Empire romain est mis aux enchères. Nerva, Trajan, Adrien, Antoine et Marc Aurèle, ces règnes sont considérés comme exemplaires. Ils marquent au IIe siècle l'apothéose de l'Empire romain. Cependant, Marc Aurèle, cet homme grand et bon, ce philosophe empereur plein de sagesse et d'humilité, commet une tragique erreur. Au lieu d'imiter ses quatre prédécesseurs et de choisir pour lui succéder l'homme le plus qualifié, il opte pour son fils Commode, dont le biographe livre une description sans compromis. Il était vil, malhonnête, libidineux, grossier et dépravé. Tout pour plaire. Commode gouverne 12 années. Il aurait pu se maintenir au pouvoir plus longtemps s'il n'avait pas offensé la garde prétorienne. Un jour, devant toute la garde assemblée, il pousse le préfet du prétoire dans la piscine impériale, après quoi il le fait danser entièrement nu devant ses concubines et le tue. Le nouveau préfet, Laetus, comprend rapidement la nécessité d'écarter l'empereur. Marcia, la maîtresse de Commode, et Éclectus, son chambellan, participent à sa conspiration. La nuit du nouvel an 192, ils empoisonnent celui qui se voulait le jeune Hercule. Comme la potion semble agir trop lentement, ils convoquent un lutteur professionnel qui rompt le cou de l'empereur dans son bain. Comme successeur, Laetus choisit un homme de bien, un vénérable et vertueux sénateur nommé Pertinax. Les troupes approuvent le choix de leur préfet, mais grognent dès l'instant où Pertinax les invite à se conduire en soldat. Il veut un retour aux plus anciennes vertus romaines, la discipline et l'austérité. Il vend aux enchères le luxueux mobilier de Commode et son vaste harem bisexuel. Les repas impériaux deviennent ascétiques. Les serviteurs du palais pressent les gardes prétoriens de tuer cet obsédé de discipline. Ainsi, le 28 mars 193, après 87 jours de règne seulement, Laetus et ses soldats tuent Pertinax et ramènent sa tête au camp. Mais Laetus n'a pas la moindre idée du successeur. Des soldats courent dans les rues de Rome en criant que le titre impérial est en vente aux plus offrants. Cette agitation est propice aux opportunistes. Le premier candidat à se présenter est Sulpicianus, le praefetus orbi, équivalent de maire de Rome. Il fait de toute évidence bonne impression aux soldats. C'est alors que Didius Iulianus, homme le plus riche de la capitale impériale, apparaît accompagné de son gendre Repentius. En approchant des murs de Rome, ils entendent les cris rauques des soldats qui refusent de les laisser entrer. Didius Iulianus crie en vain aux gardes son identité. Un plan ingénieux lui vient alors à l'esprit. Il fait hisser des pancartes sur les murs pour transmettre son message. Il y proclame son intention de faire revivre la mémoire de Commode. C'est un trait de génie. Aussitôt, une échelle est placée contre la muraille pour permettre l'ascension du corpulent millionnaire. La confrontation entre Didius Julianus et Sulpicianus débute alors. Tandis que chacun augmente son offre, le monde oscille. Au moment où les enchères se stabilisent, à 23 000 sesterces, Didius Julianus frappe un grand coup. Il crie 25 000. Le tour est joué. Didius Julianus est empereur. Il est porté en triomphe à travers les rues de Rome. Le Sénat doit ratifier cette désignation. Une séance est convoquée le soir même. Didius Julianus prononce un discours dans lequel il ne fait aucune allusion à la garde prétorienne qui encercle le Sénat. Entrant au palais impérial, le nouvel empereur tombe sur le corps décapité de Pertinax. Cette vision morbide lui provoque un rire qui s'accentue devant le repas frugal que son défunt prédécesseur n'a pas achevé. Il ordonne que les restes de la collation soient jetés aux chiens et commande un festin. Le bref règne de Didius Julianus n'est qu'un très long banquet. Avide de reconnaissance, il donne de nombreux dîners pour les sénateurs, mais rien ne peut adoucir son goût. Le Sénat le hait autant que le peuple. Il règne 66 jours. Le 1er juillet 193, l'armée de Septime Sévère pénètre dans Rome et dépose l'homme qui a acquis l'Empire romain entre l'entrée et le dessert. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire. Un jour, trois livres qui a été, comme d'ordinaire, préparé par Emmanuel, mais avant cela, un détour par la chanson. C'est Laurent Voulzy qui nous accompagne durant cette émission avec un titre de 2011 de son album « Lis and Love, Jeanne ».
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante ma peine celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres. Et pour commencer, aux éditions Écriture, Indigne de Cécile Chabot. Voici le roman d'une figure ambiguë de la Seconde Guerre mondiale, de la milice au camp de concentration. Ce roman est construit sur trois périodes. Le procès, le 6 décembre, au palais de justice de Pau, procès de Georges Despot, la déportation et l'enquête réalisée par David, le fils d'un ami de Georges. Trois temps qui démontrent l'âme humaine de toute sa complexité, une autopsie de l'âme accompagnée de dessins prégnants. Indigne de Cécile Chabot, c'est aux éditions Écriture. Écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie de Michel Borwitz aux éditions Gallimard dans la collection Tell. Graffiti sur les murs de prison. Dernière lettre des condamnés à mort. Chronique, poème rédigé dans les cachots, dans le ghetto, dans les camps de la mort. Réunions, spectacles clandestins, humour noir, écrit de combat. Ouvrage des enfants condamnés à mort, message aux survivants, archives secrètes ensevelies dans les ruines du ghetto, manuscrits cachés sous les crématoires d'Auschwitz. Michel Borwitz, chef du réseau clandestin dans un camp d'extermination et ancien commandant régional de la résistance polonaise, analyse ses écrits et dégage toute leur signification. Il s'agit ici d'une réédition. Écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie de Michel Borwitz, c'est dans la collection Tell aux éditions Gallimard. Et pour terminer, une absurde cruauté, témoignage d'une femme au goulag, 1944-1955. Étudiante et membre de la résistance polonaise, Barbara Skarga est arrêtée par le NKVD. Le 8 septembre 1944. Après plus d'un an d'interrogatoire dans les prisons de Vilno, un tribunal militaire soviétique la condamne à 10 ans de camp, suivie d'une relégation perpétuelle en Union soviétique. Elle est envoyée dans la région d'Oushkta, aux limites de l'Oural polaire, puis à Balka, au Kazakhstan, dans un camp au régime sévère, destinée aux détenus politiques. Sa peine purgée, elle travaille dans un kolkhoz de la région de Petropavlovsk jusqu'à ce qu'elle regagne son pays, la Pologne, en décembre 1955. Dans une absurde cruauté, Barbara Skarga évoque une page d'histoire qu'il ne faut pas oublier et décrit avec une sobriété remarquable un système dont l'absurdité causa le malheur de millions d'hommes. Publiée sous pseudonyme en 1985, une absurde cruauté a circulé clandestinement en Pologne jusqu'en 1990. Une absurde cruauté, témoignage d'une femme au goulag, 1944-1955, de Barbara Skarga, s'est publié aux éditions La Table Ronde. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer, toujours avec Laurent Voulzy, son album Lies and Love de 2011. Nous écoutons Glastonbury.
Wonder why crows fly.
fly by in the crimson skies.